Remplis-nous de toi. On est heureux de se retrouver dans la présence de Dieu, d'être ici dans cette assemblée évangélique, parce que tout simplement l'évangile y est prêché. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je remercie votre pasteur, son épouse, sa famille, eh bien, de m'avoir invité, et merci à vous de m'accueillir cet après-midi pour ouvrir la Bible. En écoutant mon épouse dans son témoignage, j'ai rajeuni de plus de 30 ans, hein. Elle dit 86, donc vous imaginez, voilà, ça fait 33 ans par rapport à la date qu'elle a donnée. Donc j'ai rajeuni de 33 ans, alléluia, hein. Voilà, vous avez un jeune devant vous, tout simplement. Mais jeune à l'intérieur maintenant, hein. Voilà, la carrosserie est changée, mais quoi qu'il en soit, c'est comme cela. Mais on change tous, hein. Je l'ai déjà dit en riant, mais je vais le répéter. Une petite fille était venue à la maison, elle avait vu nos photos de mariage. Alors on s'est mariés, on était très jeunes, on avait 18 ans. Donc c'était avant-hier, hein, voilà, c'était avant-hier. Et cette petite fille qui avait 4-5 ans, elle disait à ma femme, « Il est où ton autre mari ?» Alors ma femme lui dit, « Mais quel autre mari ? J'en ai pas d'autre, j'en ai qu'un, il n'y a que celui qui est là. » Elle dit, « Non, celui de la photo. » C'est juste pour dire qu'on change. On change, tout change. Et puis avec l'euro, tout augmente, vous le savez aussi. Alors on devient plus mature, on tient beaucoup mieux au vent. Voilà, c'est comme cela. Mais en tout cas, on est heureux de partager l'Écriture parce qu'un jour, de toute façon, eh bien, on quittera quand même cette terre, on quittera ce lieu pour partir. Et la question de mon épouse, c'était on va aller où, on va faire quoi, quel sens à la vie, pourquoi j'existe. Et au fond, la parole de Dieu est là pour répondre à tout cela. Il est important, eh bien, de raviver un peu ces questions qui sont passées parfois à l'intérieur de nous, à une période de nos vies. Quelquefois, on le fait taire par le bruit, par l'amusement. On fait taire ces bruits-là, ou du moins ces idées, ces questions qui traversent notre esprit, et c'est bien dommage, parce que Dieu a placé en nous la pensée de l'éternité. Dans le texte, qui est le texte de base que nous avons eu toute cette semaine avec l'Église à Rumilly, ce texte était celui-ci dans Hébreux, chapitre 13 et verset 8, où il est écrit ceci. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On le répète, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si hier il a existé, c'est que si aujourd'hui il est pareil, c'est qu'alors il est encore là. Et il peut encore faire les mêmes choses que ce qu'il a fait hier. Il peut encore nous parler de la même manière qu'il parlait hier. Mon épouse a parlé d'une dénomination religieuse tout à l'heure, que nous avons tous connue, les uns et les autres. Et c'est vrai qu'on croit, d'ailleurs j'étais avec des personnes, et notamment j'ai mangé avec le maire d'une ville importante en Savoie, et il pensait que l'Église catholique était la première Église chrétienne. Et je lui ai montré que non, du tout. L'Église catholique n'est pas la première église chrétienne. Elle est venue sur le marché en l'an 380 à peu près, pour se mettre réellement en place un peu plus tard, car ce sont des empereurs qui ont fait en sorte que l'église de Rome, car c'était l'habitation de l'empereur romain, eh bien, en fait, d'être là-bas et de pouvoir avoir un papa spirituel, donc un pape. Et puis, en riant, ce maire, quand on était au restaurant, et il m'avait invité uniquement pour parler de Jésus. Parce que lui aussi se pose des questions sur le devenir de l'âme. Est-ce que l'on peut aussi compter sur Dieu dans la démarche personnelle de la vie de tous les jours? Est-ce que Dieu peut nous aider dans la vie de tous les jours? Je répète le texte de base. Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lui, dans sa parole, a écrit « Demandez et vous recevrez. » Alors je me rappelle être avec cet homme, et cet homme donc m'attendait, nous étions là ensemble, et puis on va s'asseoir, et il me dit « Je pense que votre religion ne vous empêche pas de boire un petit peu de vin. » Alors je dis « Non, bien sûr, je bois un peu de vin. » Alors il me dit « On va prendre du vin de messe en souriant. » Alors je lui dis en souriant aussi « Écoutez, moi je ne suis pas catholique, mais pour vous, prenez un vieux pape. » Moi, je prendrais un bon Bordeaux. Parce qu'on s'est reconnu. Le Bordeaux, ce n'est pas du vin, c'est un médicament. J'ai habité dans le Bordelais, hein, alors c'est ce qui se disait là-bas. C'est le vin où il y a le plus de tanins. Donc c'est bon pour le cœur. C'est l'abus qui est mauvais, bien sûr. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire, buvez du Bordeaux tous les jours, à plus soif. Non, pas du tout. Hein. Mais c'était pour sourire à cette boutade de mise en forme avec le maire. Je crois véritablement que nous sommes dans le fait de méconnaître. On a bien une religion dite chrétienne, mais on a une méconnaissance totale de Christ, de l'Écriture. Ma femme a même dit que ceux qui lisaient la Bible étaient considérés comme des sectaires. Mais il faut quand même savoir qu'à une certaine époque en France, tous ceux qui lisaient la Bible, c'était des protestants. Donc des gens qui protestaient. Donc il fallait tuer ceux qui pouvaient protester. Donc je peux comprendre que les gens aient peur de lire la Bible parce qu'il y a un vécu historique en France. Or, la Bible nous dit, et c'est Jésus qui en parle, la foi vient de ce que l'on entend qui vient de la parole de Dieu. Et à partir du moment où on revient à l'Écriture, on va avoir une connaissance absolue des choses que Dieu veut nous dire et nous déclarer sur le vrai. Quand j'ai lu que ce n'était pas le catholicisme qui avait la primauté du christianisme, les premiers chrétiens étaient des églises où on prêchait l'évangile. Les gens qui jouent du piano, j'aime le dire, on les appelle des pianistes. Les gens qui jouent de la trompette, des trompettistes. Les gens qui travaillent dans un garage, des gens qui prêchent l'évangile, des... C'est tellement logique. Et on nous dit même que ça vient des États-Unis. Je me dis, mais comment les gens peuvent inventer et croire surtout des choses pareilles? Je me dis, mais un petit peu de conscience, un petit peu de réflexion, ça ne peut pas venir des États-Unis. Pourquoi? Je vous le prouve en quelques minutes, en quelques secondes. On a découvert l'Amérique en quelle année? 1492, il faudrait revoir votre histoire. C'est après ou avant Jésus-Christ? Vous êtes sûr de vous? Qui l'a découvert? Oh, il n'y en a pas beaucoup qui se risquent, hein? Mais vous ne serez pas noté, vous ne risquez rien. C'est Christophe Colomb qui découvre l'Amérique en pensant découvrir les Indes en 1492, en octobre, je crois. Je ne vous donnerai pas l'heure, hein? Après Jésus-Christ, ça veut dire, et c'est ça qui le prouve, que l'évangile était prêché déjà depuis 1492 ans dans tous les pays d'Europe, depuis l'Orient, et là-bas, non. Donc ça ne peut pas venir de là-bas. Et d'ailleurs, les gens qui prêchaient l'évangile à l'époque de la Bible, on les appelait déjà des évangélistes. Et pour la première fois, c'est à Antioche, en Syrie, que l'on va appeler pour la première fois les hommes qui parlent de Jésus des chrétiens. Des hommes et des femmes qui croient dans le Christ sauveur, ressuscité, celui qui a pouvoir, celui qui peut tout, celui qui nous aime, celui qui a tellement aimé le monde qu'il est prêt à nous rencontrer aujourd'hui encore dans toutes les générations, dans tous les pays du monde, quel que soit le niveau social dans lequel nous sommes, Dieu désire nous sauver parce que nous sommes tous pécheurs et tous condamnable à cause du péché. Le salaire du péché, dit la Bible, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ pour ceux qui veulent bien l'accepter. Et au fond, le texte que je veux prendre en suivant, parce que Christ a été fait chair, Dieu est venu en tant qu'homme, et Jésus nous a parlé. Le texte que je voudrais vous lire, puisque la Bible que nous avons entre les mains, c'est sa parole. Ce livre et sa parole. Mon épouse vous a parlé un petit peu de sa conversion, et j'aimerais vous dire que ce livre, un jour, est devenu pour moi la parole de Dieu. J'étais revenu effectivement à la maison avec ce livre. J'avais peur, moi aussi, au fond, avec mon épouse, on avait parlé de ce livre, et on s'est dit, avant de le lire, on va demander au curé, est-ce qu'on peut le lire ou pas? Et quand il a vu que c'était une version protestante, il a dit, oui, vous pouvez le lire, c'est une version protestante. Lisez ça tranquillement, vous verrez, c'est intéressant historiquement. Alors j'ai commencé à lire la Bible et en disant à Dieu, si tu existes, je veux te rencontrer. Je veux savoir, je ne veux pas mourir sans savoir. Parce qu'il faut savoir qu'on avait presque 30 ans, et j'avais dit à ma grand-mère, je serai rentier à 30 ans. Il me restait 2 ans à peu près, hein, encore. Je serai rentier à 30 ans. Et c'est vrai que, au fond, mon objectif, c'était pas du tout, et ma tasse de thé n'était pas du tout la religion. Je ne suis pas né dans un bénitier, j'ai fait ma communion, je l'ai déjà dit, mais je le répète, pour avoir ma gourmette, mon appareil photo, hein, et puis, voilà, mais vous l'avez fait aussi pour certains d'entre vous, voilà. Et au fond, c'était comme cela. Et j'ai même marié ma femme, elle est là pour vous le dire, c'est vrai, à l'église catholique, parce que ma belle-mère m'aurait jamais donné sa fille. Ça n'avait rien à voir avec Dieu, c'était simplement parce que c'était la tradition. Et au fond, ce Dieu d'amour qui nous aime désire nous rencontrer. Et il va nous dire quelque chose d'important dans Éphésiens. Dans Éphésiens, au chapitre 2, je l'ai noté, donc pour ceux qui ont la Bible, il est écrit ceci, à cause du péché, puisque nous sommes condamnés, il dit ceci, c'est Paul qui écrira aux Éphésiens de la part de Dieu, il dira, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Le monde agit comme cela. Tout le monde le fait, alors pourquoi pas moi? Oh, moi je fais rien par rapport à ce que font certains ministres. Et on arrive à se déculpabiliser totalement de choses qu'on doit, au fond, réagir et ne plus agir de la sorte. Et là, il est dit, ensuite, la suite nous dit, eh bien, que les hommes marchent selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Amen. Le prince de ce monde, la Bible nous renseigne que le monde gît sous la main puissante du malin. Le mal règne sur la terre. C'est pour ça que vous dites et que vous avez pu dire, si Dieu avait existé, il n'y aurait pas le mal. Et mes amis, le prince de ce monde, c'est le malin. Il se cache. Et au fond, c'est afin de vous tromper et que vous puissiez lever le poing contre Dieu. Des gens qui perdent un être cher peuvent lever le poing contre Dieu. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un lever le poing contre le diable. Mais contre Dieu, oui. Pourtant, ce Dieu nous aime. Et sa parole, eh bien, qui est là, la Bible, eh bien, nous révèle ce Dieu d'amour. Et c'est pour ça que je reviens à ce livre qui est devenu pour moi parole, parce que ce livre vous parle. Quand j'ai lu dans la Bible, en criant à Dieu chaque jour, « Je veux te rencontrer, je veux savoir si tu existes. » Parce que cet homme qui m'avait témoigné m'avait dit, « Si vous lisez les évangiles, vous allez rencontrer Dieu. » Je me suis dit, « C'est extraordinaire. Si je peux rencontrer Dieu, j'étais moi aussi dans cette recherche. » Mais je n'ai pas rencontré Dieu. Alors j'ai lu une deuxième fois l'Évangile, dans son complet, tout le Nouveau Testament jusqu'à l'Apocalypse. Je n'ai toujours pas rencontré Dieu. J'ai lu 4 fois d'affilée. En 6 mois, j'avais lu 4 fois d'affilée tout le Nouveau Testament et l'Apocalypse en suivant. Mais je n'avais pas rencontré Dieu. Mais je trouvais que c'était extraordinaire ce qu'avait vécu Jésus. Je ne comprenais pas pourquoi il était mort. Quel sens avait sa mort? Un homme bon, un homme si intelligent, un homme si parfait, un homme qui guérissait des malades, un homme qui faisait des choses extraordinaires. Et nous avons lu tout à l'heure qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais je n'avais pas compris le pourquoi. Pourquoi Christ est mort sur une croix? Pourquoi on se moquait de lui? Pourquoi on l'avait crucifié? Alors je me suis dit, je vais commencer l'Ancien Testament et je me suis mis à lire l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Ecclésiaste, un passage précis, quand il est écrit « Tout est vanité et poursuite du vent, tout est vain dans la vie d'un homme. » Que vous ayez, eh bien, une belle maison, que vous ayez un corps, eh bien, excellent, en pleine forme, que vous soyez grand, petit, large ou moins large, que vous soyez jeune ou moins jeune, le livre terminé par ceci, l'essentiel dans la vie d'un homme est d'être réconcilié avec Dieu. Et moi, je ne l'étais pas. Je n'avais pas saisi cela encore. Je n'avais pas saisi que j'étais pécheur. À ce moment-là, chez moi, la croix s'est comme dressée en vision. J'ai vu Christ mourir sur la croix. Ce jour-là, j'ai compris que Christ mourait pour moi à ma place sur la croix. Et j'ai demandé pardon pour mes péchés. Je suis devenu chrétien dans ma maison, dans l'appartement où j'habitais. Ce jour-là, je suis devenu chrétien. J'avais une étiquette de la religiosité. Ce jour-là, l'étiquette a disparu. Je n'étais plus avec l'étiquette, mais le Christ avait fait de moi, eh bien, un homme sauvé, un homme transformé. Je pouvais voir les gens complètement différemment. Je voyais les hommes autour de moi comme des hommes que Dieu aimait, que Dieu voulait sauver. Et à cette époque, je travaillais au ministère de la justice. Vous imaginez, plus juste que moi, tu meurs. Eh oui, cet homme qui travaillait au ministère de la justice était pécheur aussi. Vous savez, on classifie le péché. On pense que le péché, un petit péché, c'est rien du tout. Mais vous savez, le péché, c'est le péché. Une tache, mesdames, sur votre robe blanche, même la plus petite qui soit, vous serez obligé de la changer. Vous ne pouvez pas tolérer une tache, même petite, sur une robe blanche. Parce qu'on ne voit que la tache. Et vous, du moins, vous serez mal à l'aise parce que vous ne verrez que votre tache. Eh bien, le péché, aussi petit soit-il en nous, c'est une tache sur notre âme. Le seul moyen pour qu'elle redevienne pure, c'est d'accepter le sacrifice que Jésus a fait, ce qu'il m'a fait comprendre et ce qu'il me demande de prêcher. C'est que son sang parfait, son sang pur, lui l'innocent, Dieu fait homme, vient verser son sang pour purifier chacun d'entre nous. Et en l'acceptant, le sang efface le péché qui est en nous. Nous serons toujours dans cette nature pécheresse, mais le péché est effacé, la condamnation est effacée. Il n'y a plus de condamnation pour ceux et celles qui sont en Jésus-Christ. Amen. On doit donc venir à lui, lui demander pardon. Et il est toujours le même, il appelle toutes les générations dans tous les pays du monde pour que l'on se convertisse, que l'on vienne à Jésus et que l'on soit ainsi sauvé. Jésus est venu, il est mort à la croix, mais il est ressuscité 3 jours plus tard. Il est vivant, alléluia. On arrive à la période de Pâques, on va fêter Pâques. Les gens aujourd'hui, ils s'amusent à sonner des cloches, ils s'amusent à résonner dans tous les sens parce que les cloches résonnent de partout. Mais nous, on doit avoir du raisonnement pour raisonner autrement. Il faut considérer que Pâques, je me rappelle une fois, on avait fait un sondage. Les gens avaient répondu au sondage que Pâques, c'était la fête du chocolat. Eh ben non. Eh ben non. C'est pas la fête du chocolat. Pâques, c'est parce que Jésus est mort à la croix et il est venu pour nous sauver. Mais qu'il est ressuscité, qu'il a vaincu la mort, parce que la mort est un ennemi. Jésus est venu vaincre l'ennemi qui s'appelle la mort pour nous faire comprendre qu'après la vie, eh bien, on va sortir de notre corps. J'aime bien toujours prendre cette image. Un jour, vous irez à l'enterrement de mon manteau, parce que moi, je sortirai de mon manteau. Mais moi, je ne serai plus dans mon manteau. Alors, si vous allez visiter ma tombe, que vous voyez ma photo sur une pierre tombale et mon âge, parce que je ne vous le dirai pas, eh bien, ne parlez pas à mon manteau, il n'entendra rien. Moi, je serai parti. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Eh bien, moi, je serai parti, je serai au ciel auprès de Jésus. Avec tous ceux qui, comme moi, qui m'auront précédé, auront fait de Jésus leur sauveur. Et tous ceux qui, après moi, le feront aussi, seront sauvés. Et je veux que mes enfants soient sauvés. Je veux que ma famille soit sauvée. Et c'est ce qui me donne de l'espérance. Mais une espérance véritable. Parce que ce Dieu-là, il se fait rencontrer. Il veut qu'on le rencontre, si on ose croire. Vous savez, dans ce texte, eh bien, il est dit donc que nous sommes morts. Mais on peut revenir à la vie. C'est ce que nous étions, dit l'apôtre, morts. Mais il est revenu à la vie, pourquoi ? Parce que Dieu a posé sa main sur lui, parce qu'il a dit oui à Jésus. Et nous, c'est ce qu'il faut faire. Il faut dire oui au Seigneur. Un jour, dans la Bible, il y a une histoire extraordinaire. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelait Zachée. Oh, Zachée, c'est pas n'importe qui, c'est un homme riche. Vous savez, dans la Bible, souvent, il est parlé des riches et il est parlé des pauvres. Lui est un homme riche. Un homme intelligent, il était chef des publicains, c'est-à-dire, il était le chef de tous les inspecteurs des impôts que vous aimez beaucoup. Que les chrétiens les aiment, bien sûr. Les chrétiens sont pleins d'amour. Et au fond, eh bien, il était de ceux qui, comme tout le monde, avaient un vide dans son cœur. Parce qu'on a tous un vide dans le cœur. On a beau être pauvre, riche, plus ou moins avec un cerveau important. Peu importe, on a tous le même vide à l'intérieur. On a tous les mêmes questions à l'intérieur, les questions fondamentales. Et cet homme savait que Jésus allait passer dans sa ville, alors il s'est caché dans un arbre, un sycomore. Et il était là dans le sycomore, c'était un homme petit, donc il voulait absolument voir Jésus. Et là, il était dans cet arbre, au milieu de ses feuilles, là, parce qu'il ne devait pas être tellement apprécié des contribuables de son époque. Peut-être qu'il valait mieux qu'il se cache, hein, et qu'il n'y ait pas de gilet jaune de l'époque. On sourit, hein, j'ai rien contre eux. En tout cas, Jésus va arriver près du sycomore, et il va dire, « Zachée, hâte-toi de descendre !» Vous imaginez ? Jésus connaît Zachée. Zachée n'a jamais vu Jésus. Zachée n'a jamais parlé à Jésus. Zachée n'a jamais serré la main de Jésus. Mais Jésus venant à l'arbre, cet arbre où se trouve Zachée, Zachée eh bien, est connu de Jésus et il connaît même son prénom. Ce qui revient à dire que Jésus te connaît. Jésus vous connaît en particulier. Vous avez beau essayer de vous cacher par des raisonnements. On a beau essayer de se cacher en disant « Mais moi, vous savez, pasteur, moi, je suis scientifique. » Ou bien « Je suis cartésien. » Ah bon ? Vous êtes comme Descartes, alors vous croyez en Dieu ? Parce que les gens se cachent derrière en pensant que Descartes, c'était un incroyant. Non, non, Descartes était croyant. Il croyait à l'existence de Dieu. J'écoutais tout à l'heure, je faisais écouter quelque chose. Il y a un homme, un rabbin, qui dit à un autre homme, t'es croyant ? Ah non, non, moi je suis pas croyant en Dieu. Hein. Alors, si t'es pas croyant en Dieu, ça, tu le crois au moins que tu crois pas en Dieu ? Bah, il dit oui, je le crois vraiment. Bah, tu vois, t'es croyant. Être croyant, ça veut dire quoi ? C'est d'abord s'approcher de Dieu et faire le test que Dieu existe. Zachée, au fond, ça a été un test extraordinaire. Il réalise que Dieu le connaît et que Dieu l'appelle. Vous savez ce que dit Jésus aujourd'hui, cet après-midi ? Il dit « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos pour votre âme. » Il y a des gens qui sont fatigués, qui sont dans la détresse, qui sont dans une déprime terrible et ça dure parfois depuis des années. J'ai vu une femme en Belgique et je relisais tout à l'heure son témoignage quand j'étais là-bas en Belgique et elle m'a fait un courrier parce qu'en fait, il y a plusieurs années, j'étais allé là-bas, dans cette ville, et à Bruxelles, dans cette capitale, et j'avais prié pour une femme qui était malade, pour plusieurs en fait. Elle, ça faisait 28 ans qu'elle prenait des traitements pour son cœur malade. Et elle avait été guérie. Mais je l'ai su seulement là, maintenant. Ça faisait 4 ans. Alors quand elle est venue me voir, elle me dit, pasteur, pasteur, faut que je vous dise, c'est extraordinaire, hein ? Depuis 4 ans, je ne prends plus de médicaments, et j'étais malade pendant 28 ans. Parce que hier, Jésus guérissait. Hier, Jésus pardonnait. Hier, Jésus faisait des choses extraordinaires pour le moindre qui s'approchait de lui. Pour le plus intelligent, comme le plus simple ou le plus misérable. Jésus a quelque chose pour toi. Jésus avait quelque chose pour Zachée. Il va lui dire, hâte-toi de descendre, Zachée, car il faut aujourd'hui que je demeure dans ta maison. Le Seigneur est en train de nous dire à chacun, hâte-toi de descendre de tes raisonnements, de te croire plus intelligent que tout le monde, parce que Jésus veut habiter ta maison, il veut venir habiter ton cœur, il veut changer ta vie, il veut changer ta vie avec tes enfants, il en a assez et il te prie, il te presse de lui dire oui, parce que toi tu ne sais pas quand tu vas partir. On ne connaît pas la date de notre départ. Moi un jour j'ai reçu un coup de téléphone de ma sœur qui m'a dit, viens vite tu sais. Ma fille, elle va mourir. Elle avait 20 ans. Elle avait 20 ans. On habitait à cette époque, je crois qu'on était dans l'Ain. À l'époque, nous étions dans l'Ain. Et elle était sur Bordeaux. Aussitôt, je suis parti sur Bordeaux pour essayer de leur témoigner de l'amour de Jésus. On n'a pas à attendre. Demain, il sera peut-être trop tard. Aujourd'hui, c'est le jour de notre salut. Aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. C'est ce que voulait Jésus pour Zachée. Mais c'est ce que Jésus veut pour chacun d'entre nous. Oui, cette petite est partie très vite. Elle a attrapé un virus que l'on ne pouvait pas voir. Vous savez, les gens, ils disent, moi, je crois que ce que je vois. Je ne vous souhaite pas ce qui lui est arrivé parce qu'elle n'a pas vu arriver le virus. Hein. Quand un virus vous atteint, vous ne le voyez pas. Mais il peut être mortel. et il existe bien. Tandis que Dieu, il montre qu'il existe. Et c'est à nous de le croire pour pouvoir le voir. C'est à nous de lui dire de venir dans nos vies, de venir dans notre maison. Et vous savez ce qu'a fait Zachée ? Il est descendu de son arbre et il a invité Jésus dans sa maison. « Ah, j'aimerais vraiment que vous aussi vous le fassiez. Moi, en tout cas, je l'ai fait il y a 30 ans, plus de 30 ans en arrière et je ne regrette rien. Je regrette si qu'une chose, si je l'avais connu avant, j'aurais fait beaucoup moins de bêtises. » Parce que depuis que je le connais, Dieu drive ma vie. Dieu conduit ma vie. Je lui demande conseil. Certes, je suis devenu pasteur, mais je ne l'étais pas. Je ne l'étais absolument pas. Ce n'était pas du tout ce que je pensais faire. Je vous l'ai dit, je voulais être rentier. Alors Dieu m'a fait autrement. Et il a dit, non, tu seras pasteur. Alors j'ai laissé la bourse, j'ai tout laissé. Parce que je faisais beaucoup de bourses, beaucoup de placements. Mais j'ai tout abandonné. Mon placement aujourd'hui, il est en Jésus. Il est de voir beaucoup d'âmes sauvées, beaucoup d'hommes et de femmes venir à Jésus, se convertissant, et ainsi leur vie est changée, bouleversée. Je crois vraiment que Dieu désire toucher les uns comme les autres. Vous savez, il y a des gens qui pensent que Dieu est partout. Il y a des gens qui caressent les sycomores. Jésus n'a pas caressé le sycomore. Mais ce que je vous dis est vrai, hein ? Il caresse les arbres pour prendre l'énergie des arbres. Je me dis, mais il dort complètement. Hein ? Moi, les arbres, je les coupe, je les mets dans ma cheminée et ça me chauffe. Moi, je ne les caresse pas, je les coupe. Mais des personnes font comme ça. Quand je vais en Afrique, les gens, ils coupent les arbres et puis ils cuisinent avec la braise. Ils nous font des bonnes choses à manger. Mais vous voyez, le prince de ce monde règne et arrive à nous faire croire. Mais le pire dans l'histoire, c'est que comme il y a un vide dans le cœur de l'homme, les gens essayent de remplir ce vide en y mettant n'importe quoi. Mais ce vide a la forme de Dieu. Ce vide, c'est sa forme à lui. Et quand on l'accepte, alors tout est rempli parfaitement. Tout s'imbrique parfaitement. Alors ma vie devient, je l'ai dit, ma femme l'a dit tout à l'heure, j'avais rencontré un illuminé. Alors je suis content aujourd'hui de pouvoir l'être aussi plein de lumière pour vous éclairer. Pour moi, à cette époque, illuminé, c'était péjoratif. Mais aujourd'hui, c'est rempli de la lumière du Seigneur. Parce que Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Aujourd'hui encore. Jésus communique la vie. Quand il est ressuscité, eh bien, avant de partir, il a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jusqu'à la fin du monde. Vous imaginez ? Oui, il y aura une fin du monde, comme il y aura ma fin, comme il y aura notre fin. Mais l'essentiel est d'être réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ, car il est le seul médiateur. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a de salut en aucun autre. C'est Pierre qui disait cela. Pierre l'évangéliste. Je dis évangéliste parce qu'il prêchait l'évangile. Pierre l'évangéliste criait partout, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a pas le nom d'un autre, il n'y a pas le nom d'une autre, il n'y a pas le nom d'une religion, mais il y a le nom de Jésus. Pour être sauvé, c'est Jésus. Sans Jésus, on est perdu. Si Jésus n'est pas dans vos vies, si vous avez simplement une chaînette avec une insigne, ça ne suffit pas. Notre vraie sécurité, c'est Jésus. Il a dit lui-même, « Je suis la résurrection et la vie. » C'est lui qui donne la résurrection et c'est lui qui nous donne la vie. D'ailleurs, on a été créé par lui et on a été créé pour lui. Amen. On a été créé aussi pour lui. Et Dieu a montré sa toute-puissance dans la résurrection. Il a ressuscité une petite qui avait 12 ans dans la Bible. Elle était morte. Jaïrus, le papa, qui était chef de synagogue. Lui, dans sa synagogue, il n'y avait pas tous ces miracles. Mais il entend parler que Jésus faisait des miracles. Alors il va chercher Jésus. Parce que sachez que il y a une chose importante. C'est que quand le Messie devait venir, eh bien, il y aurait des miracles. Il y aurait des résurrections. Il y aurait des sourds qui entendraient, des boiteux qui marcheraient, il y aurait des aveugles qui verraient, toutes sortes de maladies que Jésus, que le Messie viendrait et ainsi guérirait. Et là, cette jeune fille va retrouver la vie parce que Jésus va lui donner la vie. Un autre dans la Bible, un jeune homme, va retrouver la vie de la même manière. On l'emmenait en terre, c'était son heure. Mais Jésus n'avait pas dit son dernier mot. Et quand il voit la maman pleurer, il lui dit « Ne pleure plus !» En Jésus, il y a une solution, il y a une espérance. Vous avez peut-être perdu un être cher et c'est difficile. Il y a des personnes qui ne s'en remettent pas, mais c'est compliqué. Mais il y a une espérance. Ne pleure plus. C'est ce que dit Jésus à cette femme. Ne pleure plus. Pourquoi ? Parce que Jésus ressuscite ce garçon. Ce jeune homme va ressusciter et il va la rendre à sa mère. Jésus est la résurrection et la vie. Et même plus tard, il va ressusciter un homme qui, lui, est en décomposition, un homme qui s'appelle Lazare. Lazare qui sent déjà, vous imaginez, le sang ne coule plus dans ses veines. Le corps est devenu dur comme du marbre. Il n'y a plus de sang ni dans ses yeux, ni dans ses organes, ni là dans ce qui est cérébral. Vous savez, nous, on nous dit, « Oh, mais vous savez, hein, 3 minutes d'arrêt cérébral, il va y avoir des séquelles. » Quand il y a eu un arrêt cardiaque et que le sang n'a pas alimenté le cerveau, il y aura tellement de séquelles. Alors imaginez ce Lazare. Il est au tombeau depuis plusieurs jours. Et Jésus va dire ôter la pierre et il va se mettre à parler. Et avant, il aura prié, « Je sais, Père, que tu m'exauces toujours. » Mais on parle de Jésus, Dieu fait homme, celui qui a tout pouvoir, celui qui dit la vérité, celui qui peut tout. Et il va dire, « Lazare, sors !» Et il nous est dit, « Le mort est sorti. » Jésus n'a pas parlé à la mort, hein. Il a dit à Lazare de sortir. Il ne parle pas aux morts, Jésus. D'ailleurs, Dieu nous dit de ne pas parler aux morts, hein. Ça, c'est un péché. Mais de lui parler à lui, Dieu, au travers de Jésus. Et il nous a dit que Lazare est sorti, et à cause de cela, beaucoup ont cru en Jésus-Christ. Comme quoi il était Dieu, le Tout-Puissant, le Messie, celui qui devait venir. Je me dis, c'est extraordinaire. Mon fils, il n'y a pas très longtemps, est allé dans une assemblée, pas très loin d'ici. Il était invité là-bas. Et il me dit, « Papa, c'était extraordinaire. On a revu monsieur Untel, dont je ne vous citerai pas le nom. » Je dis, « Ah bon, tu l'as revu ?» Il me dit, « Oui. » Il a dit, quand il a su que c'était nous, enfin que c'était moi, il dit, il était content comme tout. Qui était cet homme ? Eh bien, c'était un homme qui cliniquement était mort. Il était dans cette région ici, pas sur Annecy. Et à l'époque, j'avais été prié pour lui et voir sa femme. Et cet homme, eh bien, avait déjà reçu à l'hôpital une gerbe mortuaire. Du moins, c'est sa femme qui l'avait reçue. On avait devancé les choses, hein. Et cet homme était donc rentré dans cette mort clinique et il s'était retrouvé près de la Suisse. On devait l'opérer et puis... en France, on a dit non, ne l'emmenez pas en Suisse, amenez-le sur Grenoble. Et c'est là-bas qu'on a fait connaissance avec la famille. Et lorsque on m'a envoyé visiter ce malade, je me suis dit dans ma voiture, mais Seigneur, je vais dire quoi à sa femme ? Son mari est dans cet état depuis des semaines, qu'est-ce que je vais raconter ? Et puis la petite voix intérieure m'a dit, je priais, je parlais à Dieu. Cette petite voix intérieure me dit, Lazare. Et je me suis dit, ben Seigneur, si j'ai ce petit mot qui me vient, Lazare, quand je verrai cette femme, je lui parlerai de l'histoire de Lazare. C'est une histoire dans la Bible qui s'est passée hier, même avant-hier, il y a plus de 2000 ans. Mais Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'ai cette conscience que Dieu peut tout. Alors j'arrive à l'hôpital, au 14e étage, où se trouvait cet homme, le service qui était spécialisé pour ces personnes. Et je demande qui est Madame Untel. Alors elle me dit, ben c'est moi. Plusieurs personnes dans la salle d'attente. Et là, je dis, vous savez, Lazare est ressuscité. Sa femme me regarde avec des yeux. Je dis, ben écoutez, c'est écrit dans la Bible, on va la lire ensemble. Et là, dans la salle d'attente, je prends ma Bible et je lis à haute voix tout le texte de Jean, chapitre 11. Et je lis toute l'histoire de Lazare jusqu'à la fin. Lazare, sort ! Et le mort sorti. Et puis c'est l'heure de la visite. Nous rentrons dans la chambre avec toute la panoplie, vous savez, du bon visiteur. Le chapeau, les chaussures, la blouse, les gants, le masque. Et on rentre Et je crie en arrivant dans la chambre, « Au nom de Jésus, réveille-toi !» Et là, instantanément, cet homme ouvre les yeux, il referme. Sa femme se met à hurler dans la chambre d'hôpital. Elle se met à genoux, il y a des cris, des pleurs, il y a tout ce que vous voulez. Et là, d'un seul coup, les blouses blanches arrivent. Qu'est-ce qui se passe ici? La femme dit, écoutez, ça fait 3 semaines que mon mari n'a plus de... Mais elle ne le dit pas de la manière dont je le dis. Hein. Elle le dit avec une telle émotion. Et elle dit, mon mari est vivant, mon mari est vivant. Et on lui dit, non, pas du tout, c'est une réaction nerveuse. Alors moi, je dis, sœur, on a demandé un signe à Dieu. Alors, on va croire que Dieu va le faire. Je dis, mettez-vous à droite, je me mets à gauche. Et je dis, monsieur Intel, je l'ai appelé par son prénom, je connaissais son prénom, mais je ne veux pas vous le dire, ça serait mieux qu'un jour lui vienne. Je dis, si tu m'entends, bouge ton petit doigt. Et il bouge son petit doigt. Il se met à pleurer. Dans les 15 jours qui ont suivi, cet homme était dans un fauteuil roulant. Un an après, il reprenait son travail. Mais plus que cela, parce que quand Dieu fait quelque chose, il fait des choses énormes. Dans la salle d'attente, il y avait une dame qui était dans le même service. Son mari avait un peu les mêmes difficultés. Ce n'est pas tout à fait les mêmes, mais on va dire que c'était le même service. Et un jour, dans l'hôpital, j'allais voir cet homme tous les jours. Et donc, ce Lazare ressuscité, je vais dire. Hein, je vais donc à l'hôpital et cette dame me dit « Bonjour, pasteur. » Je dis « Vous me connaissez ?» Elle me dit « Oui, rappelez-vous, j'étais à la salle d'attente où vous avez lu ce livre de la Bible. Et vraiment, j'étais très attentive. » Je dis « Ah bon ?» Elle dit « Mais mon mari, j'ai fait ce que vous avez dit, mais il n'y a pas de résultat. » Alors je dis, est-ce que vous êtes d'accord que nous prions ce soir à la réunion de prière de l'église pour votre mari? Vous pouvez me dire comment il s'appelle? Et c'est là qu'elle me dit, mon mari s'appelle Lazare. Moi, des Lazares, j'en ai pas connu d'autres. J'en ai connu qu'un, celui-là. J'avais les larmes aux yeux. J'ai lu à haute voix l'histoire de Lazare, et là, il y avait un vrai Lazare, de prénom, qui était malade. Que Dieu pouvait savoir cela. Je suis venu le jour et l'heure qu'il fallait. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire concordance des temps et des moments. Il n'y a que Dieu, il n'y a pas de hasard. J'avais les larmes aux yeux et j'ai dit, écoutez, on va prier pour votre mari. À la réunion de prière le soir, on a prié pour ce Lazare-là. Le lendemain, je retourne à l'hôpital. Je vais voir l'homme que je connaissais et sa femme, mais en même temps, je rencontre cette femme. Elle me dit, c'est merveilleux, ce matin, mon mari a ouvert les yeux. Mon mari parle, mon mari est vivant. Gloire à Dieu. Vous savez, Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On peut lui faire confiance. Jésus est venu détruire toutes les œuvres du diable. La maladie ne vient pas de Dieu. D'ailleurs, il y a le mot mal dedans. Maladie, mais moi je vais vous dire, Dieu a dit, tout est possible. N'écoutez pas ce que le mal vous dit. Ça vous donne maladie. Je fais des fautes d'orthographe dans mon français, mais ce n'est pas grave. C'est pour bien comprendre. Maladie, il y a le mot mal. D'accord? Le mot mal doit disparaître. Dans malheureux, certains peut-être sont malheureux au milieu de nous, il y a le mal qui est collé au mot heureux. Le péché a donné le malheur de l'homme. Ça a heurté, le mal a heurté l'homme. Et le mot mal s'est attaché à l'homme. Ça fait le malheur. Malheureux. Mais sitôt qu'on revient à Jésus, le mal est obligé de se décrocher parce qu'il est vaincu. Alors il ne reste plus que le mot heureux. C'est glorieux, n'est-ce pas? Je vous propose de venir à Jésus. Car Jésus a dit, venez à moi, vous tous. Alors on va prier le Seigneur. Que le Seigneur puisse vous bénir, que le Seigneur puisse vous visiter, que le Seigneur puisse vous guérir puisqu'il a tout pouvoir. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il l'a fait pour des amis, et je pourrais vous citer des centaines et des centaines de cas de guérison, des centaines et des centaines de personnes qui ont pu dire oui à Jésus et leur vie a changé. Du malheureux qu'ils étaient, le bonheur s'est installé. Combien de gens étaient malheureux, mais quand le Jésus est venu dans leur vie, ils ne pouvaient que chanter des cantiques, être heureux de jour en jour, parce qu'ils avaient vu la gloire du Seigneur. On a prié le Seigneur. Seigneur, je veux te remercier. Tu sais que